Chaque histoire de ce podcast est une trajectoire de vie personnelle, singulière. Elle ne représente qu'elle-même, car chacun a son histoire et chacun a sa mémoire.
Et de nous, qui se souviendra ? Par Nicole Guidicelli.
Michel est pied noir, né en Algérie en 1943. De son ascendance paternelle, il ne sait presque rien, juste que son père est né à Oran en 1911. Sa mère, elle, est arrivée en Algérie à l'âge de 9 ans, dans les années 30. Ses parents fuyaient le régime de Franco en Espagne. En Algérie, le grand-père de Michel est employé comme cultivateur dans des fermes tenues par des colons. Michel naît à Pérégo, un gros village de l'Oranie, où son père travaille comme cheminot. Ses parents s'installent ensuite à La Seigna, un petit village proche d'Oran, où il passe son enfance et son adolescence. Michel se souvient bien de la vie là-bas. D'ailleurs, toute son histoire d'Algérie est restée gravée dans sa mémoire. Pendant qu'il raconte, Jacqueline, sa femme, se tient à côté de nous. Sa mémoire à elle s'efface, mais elle boit les paroles de son amoureux.
Ma vie dans ce village de La Seigna, elle était surtout marquée par la promiscuité dans laquelle nous vivions, sans nous plaindre, mais par rapport à tous nos amis, par rapport à tous nos petits copains, c'était vraiment quelque chose qui nous touchait parce que nous vivions donc à 7, mes parents et nous 5, dans un appartement où il n'y avait qu'une cuisine et une chambre. Nous n'avions ni eau, ni électricité. Il y avait une toilette centrale pour tous ceux qui vivaient dans cette cour, où vivaient plusieurs familles. Plus d'une trentaine de personnes à s'alimenter sur un seul robinet. Et cette image me revient aussi, c'est que pour les grandes toilettes, ma mère remplissait ce qu'on appelait des baquets, des grands baquets en zinc, qu'elle laissait toute la journée au soleil, et le samedi après-midi, ma mère, devant tout le monde, nous faisait la toilette. Et donc, on a vécu vraiment pauvrement. Et puis, il se trouve que mon père, à un certain moment, a eu un HLM. Et nous avons déménagé de La Seigna, et nous sommes allés habiter à Oran, une cité qui s'appelait les Glycines. Et là, pour la première fois, nous avions dans notre appartement une chambre, l'eau chaude, nous avions des toilettes, nous avions l'électricité. Et ça a complètement changé notre vie, bien entendu. J'ai laissé tomber l'école à l'âge de 17 ans, parce que je sentais que ma mère ne pouvait plus nous payer l'école. Ma mère faisait des crédits chez le boulanger, chez l'épicier, pour nous payer le car, pour nous payer la demi-pension. C'est là que j'ai commencé à travailler en pharmacie. C'était une pharmacie qui travaillait que la nuit. Et c'est parce que je travaillais dans cette pharmacie de garde que j'ai commencé à connaître les parents à Jacqueline. Et le frère à Jacqueline, mon épouse, s'est blessé. Et donc, tous les soirs, j'allais faire le pansement au frère à Jacqueline. Et c'est là qu'a commencé un petit peu notre histoire d'amour. C'est que Jacqueline se plaisait à me passer les pansements, à me passer les ciseaux. Et puis, peu à peu, comme ça, est née une petite complicité entre nous deux. Et c'est comme ça que nous sommes devenus amoureux. Très amoureux. Très amoureux. Malheureusement, les effets de la guerre ont commencé à se faire ressentir. Et puis, les parents de Jacqueline ont dû partir. Parce que son frère avait reçu des menaces. Et ça a été un grand déchirement. Donc moi, j'ai continué à travailler en pharmacie. La pharmacie du Semiramis, qui était très connue à Oran. Et il s'est trouvé que dans cette pharmacie, celle qui était pharmacienne était une juive. Et son papa, qui était préparateur en pharmacie, était aussi un juif. Et ils ont craint pour leur vie, Et à un certain moment, ils m'ont dit, Michel, vous allez tenir la pharmacie tout seul. Nous partons en métropole, mais nous reviendrons quand les événements se calmeront. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, fin 60-61, à aucun moment, j'imaginais que nous devions partir. Pour moi, c'était impensable. C'était impensable. Je vous assure que cette question de colonisation, j'en parlais encore avec un ami sur la plage, un ami qui m'a dit à un certain moment, « Tu sais, Michel, vous n'étiez pas chez vous. » Ça m'a fait mal, d'ailleurs. « Vous n'étiez pas chez vous, il a fallu qu'à un certain moment, vous rendiez cette Algérie aux Algériens. » Mais nous, à cette période, jusqu'à que je quitte l'Algérie en 62, je n'avais pas ce sentiment que nous étions des colonisateurs. À aucun moment, ni moi, ni mes amis. C'est quelque chose qui nous échappait. Jamais on a mis l'accent sur ce fait que nous avions colonisé. Ça, c'est un terme qui, même encore aujourd'hui, il m'est difficile à prononcer. Ce terme de colonisation me fait mal encore aujourd'hui. Il y avait, ma famille en tout cas, n'a jamais eu ce rejet de l'arabe. Et réciproquement, les arabes envers ma famille, on n'a jamais été ennemis, entre guillemets. Jamais on se disait sale arabe. Jamais sale français. Jamais j'entendais ça. On se disputait pour des bagatelles, parce qu'au football, je lui ai fait mal, parce qu'on avait gagné, parce que si. Mais nous, adolescents, nous n'avions pas ce caractère d'animosité, peut-être un petit peu chez certains, mais pas aussi flagrant que dans d'autres circonstances où certains Européens ont malheureusement trop montré cette supériorité. Ça, c'est quelque chose que j'en voudrais même à ces Européens, par exemple le colon, celui chez laquelle ma grand-mère travaillait, lui alors, il était colonialiste jusqu'au bout des ongles. Je l'ai vu donner des coups de pied aux fesses à des jeunes Arabes au travail. Nous, on ne le voyait pas comme ça. Moi, en tant que jeune, on voyait, bon, on était soumis, bien entendu, c'était le colon, on travaillait pour eux, mais eux le faisaient bien ressentir. Quand ils arrivaient le matin, chercher les légumes, tout ça, ils faisaient bien ressentir que c'était eux les colons. Je ne dis pas tous les colons. Je cible bien quelques colons. Ce n'était pas une généralité. Et on vivait très bien ensemble dans toutes les fêtes du village. Le 14 juillet, le 15 août, tout ça. Il y avait des grandes fêtes avec des défilés militaires. Eh bien, je vois encore ces Arabes habillés en chef arabe qui venaient à la sortie de la messe et qui venait saluer le drapeau français, fier de porter le drapeau français et de se mélanger à toutes ces fêtes françaises, européennes, pieds noirs. Et ça, voyez-vous, c'est quelque chose que j'aime à mettre en relief parce qu'on aurait pu vivre bien ensemble si la politique ne s'était pas mêlée. Beaucoup d'Arabes sont venus nous dire « Mais ne partez pas, on est bien ensemble. » Même sur les quais de la gare, sur les quais où il y avait les bateaux, ils venaient nous dire « Ne partez pas, restez avec nous. » Ça, c'est une vérité. Je ne peux pas l'inventer, ça. C'est quelque chose qui me touche encore aujourd'hui et qui me fait dire « Ne me dites jamais que nous n'aimions pas les Arabes. » Parce que eux aussi nous aimaient. Je vous ai raconté cette anecdote où quand on arrivait à la ferme de ma grand-mère, on s'embrassait, on se rendait service. Il était minuit, 1h du matin, on était encore assis sur un tapis de paille à se raconter. Et j'ai même appris à parler l'arabe et tout. Sans jamais, jamais, jamais le même truc. Hein. Et quand j'entends dire que les pieds noirs n'aimaient pas les Arabes, c'est quelque chose qui aujourd'hui, j'ai 79 ans, j'ai horreur d'entendre ça. Il y a quelque chose qui ne me lâche pas et qui ne me lâchera pas jusqu'à que je traverse le miroir, comme on dit, c'est que ces événements d'Algérie ont été un véritable gâchis dans tous les sens du mot. Premièrement, parce que je connais maintenant des familles françaises dont leur fils est mort en Algérie et qui me parlent aujourd'hui avec une certaine... avec aigreur. Pourquoi ? Pourquoi on n'a pas pu faire autre chose ? Pourquoi tant de promesses? Moi, je me rappelle quand j'entendais les discours du général de Gaulle, de Dunkerque à Tamanrasset, tous français, c'était quelque chose de terrible de s'entendre dire que l'Algérie était française et qu'elle allait le rester. Et ça, aujourd'hui, pour moi, c'est la plus grande blessure de nous avoir fait miroiter que l'Algérie allait rester française. On ne pensait pas que l'Algérie était dans les mains des Arabes, que nous étions français, tout simplement. Nous vivions en Algérie, c'était notre France. Je dis, mais quel gâchis d'avoir quitté cette Algérie que nous avons, et je pèse mes mots, que nous avons construite de nos mains. Beaucoup de gens qui habitent en France, des métropolitains, ne savent pas le travail qui a été fait en Algérie en termes d'infrastructures, en termes d'autoroutes, ferroviaires, scolaires. Notre Algérie était belle, Oran était magnifique, nous avions un front de mer qui était magnifique. On avait cette Vierge de Santa Cruz qui nous protégeait, comme on disait. Donc vous voyez, tout ça s'imbriquait pour nous unir dans un élan de patriotisme. Moi, je ne voulais pas quitter l'Algérie et rentrer en France. Pour moi, c'était impensable, même si ma femme me manquait terriblement. C'était un scénario que je n'aurais jamais imaginé et dont je ne voyais pas l'aboutissement. Jusqu'au jour où est arrivé ce fameux 5 juillet. C'était déjà l'indépendance de l'Algérie. Moi, j'avais fermé la pharmacie. On se barricadait en haut de l'immeuble. Ça se bagarrait dans tous les coins. Il y avait des morts dans les rues. On entendait les tirs, on entendait les mitraillettes, ce qu'ils appelaient la doucette. Et nous, on était là, on se demandait, on n'avait pas toutes les informations. On entendait des explosions jusque tard dans la soirée. Et c'était vraiment la guerre. Et bizarrement, le lendemain de cette journée, il y a eu un grand silence. Mais j'ai ouvert la pharmacie. En face de la pharmacie, il y avait une entreprise, une usine, qui faisait mûrir artificiellement les agrumes avant de les expédier en métropole. Les Arabes qui y travaillaient n'avaient qu'à traverser la route pour venir à la pharmacie. Et souvent, ils venaient me voir, « Monsieur Michel, je me suis fait mal, Monsieur Michel, j'ai mal à la tête. » Quand ils avaient des piqûres à faire, c'est moi qui leur faisais. Et je me suis posé la question, comment ça se fait qu'ils ne m'ont pas touché ? C'est-à-dire que le FLN passait devant la pharmacie, avec leur drapeau algérien, tout ça, et à aucun moment, alors que j'étais tout seul à la pharmacie ouverte, à aucun moment, je n'ai été menacé. J'ai supposé qu'ils ont dû se dire, ce gars-là, il ne faut pas le toucher, il est inoffensif, il a aidé les Arabes, il n'a jamais fait de mal, donc lui, ne lui faites pas de mal. Mais il y a eu un moment où c'était plus tenable. C'était plus tenable parce que je n'avais plus de clients, mais je n'avais plus de nouvelles de mes patrons juifs pharmaciens. Et donc, j'ai décidé de baisser les rideaux. Et je n'ai plus revu cette pharmacie. Et l'OAS avait demandé à tous les Européens qui vivaient dans les banlieues comme nous habitions, aux Glycines, les Lauriers Roses, Maraval, etc. Ils avaient demandé à tous les pieds noirs de se concentrer parce que ça allait mal pour nous. Et effectivement, ça allait mal. Donc, toutes les familles pieds noirs se sont concentrées au centre d'Oran. Et puis, à un certain moment, il a fallu que j'aie une conversation avec mes parents, leur dire, bon, écoutez, ça va mal, on ne peut plus tenir. Mon père n'avait pas eu sa mutation encore de cheminot. Donc, mon frère et moi avons pris l'avion et nous avons été recueillis dans la famille de Jacqueline. Donc ça, c'était en septembre 1962, où là, réellement, nous nous sommes rendus compte que, pour nous, l'Algérie française, c'était fini. Nous avions un peu plus d'informations de la part du gouvernement français, tout ça, de la part de l'OAS. Je ne me cache pas de dire que nous étions des grands supporters de l'OAS, parce que c'est eux qui nous faisaient miroiter l'Algérie française. Et je peux vous dire que, en tous les cas, moi personnellement, j'y tenais beaucoup à cette Algérie française. Quand on a pris notre billet d'avion, mon frère et moi, J'avais déjà une grande tristesse, déjà de quitter mes parents. Cette tristesse était mélangée au fait que j'allais retrouver ma fiancée. C'est un mélange de sentiments agréables, un sentiment presque de haine, hélas, moi qui ne suis pas haineux, contre la situation, contre ceux qui nous obligeaient à quitter notre Algérie. Et surtout, d'inquiétude. Je voyais mon avenir très noir. On se demandait où on allait, ce qu'on allait devenir, où on allait atterrir. On se posait plein de questions. À l'âge de 18 ans, ma tête n'était pas assez grande pour supporter autant d'inquiétudes. Ma mère était dans l'attente, justement aussi, de recevoir cette mutation parce qu'elle a vu ses deux enfants partir en métropole. Elle se sentait en insécurité parce qu'il y a encore les trois autres. Et j'ai jamais posé la question à ma mère quand elle a su qu'elle devait rentrer en France, qu'elle a ressenti. Mais je sais que quand elle est arrivée à Bellegarde, elle me disait, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. D'avoir encore à quitter l'Algérie pour un autre pays qu'elle ne connaissait pas, ça a été un arrachement. Et de se retrouver dans une ville où elle ne connaissait personne, les pieds noirs n'ont pas été très bien accueillis. Ma mère l'a ressenti très fort. Surtout quand elle est rentrée à Bellegarde, il a fallu aller à la mairie pour signer un papier et ma mère était illettrée. Quand on lui a dit « Madame, il faut signer là », et ma mère s'est mise à pleurer, et elle a eu honte quand elle a dit « Je ne sais pas signer ». Ça a été là-bas au bureau de la poste, au bureau de la mairie, c'était quelque chose de terrible. Et ils lui ont dit « Ben écoute, vous faites une croix ». Au risque de vous étonner, moi personnellement, je n'ai pas eu à me défendre de cette qualification de pied noir, que d'ailleurs je n'aimais pas. Ce terme de pied noir nous qualifiait comme gens à part. Mais en Algérie, on n'avait pas ce terme-là. Mon souci, c'était tout de suite de trouver du travail. Et partout où je suis allé, je n'ai pas senti cette différence entre nous, les pieds noirs, et puis les métropolitains, les patous. À aucun moment, je n'ai senti ça, sauf que j'entendais effectivement que souvent, notre accent les gênait beaucoup, notre façon de vivre, nos origines. Souvent, alors ça, c'est quelque chose qui me touche encore aujourd'hui, que souvent, ils avaient envoyé les militaires français pour rien, pour sauver des pieds noirs. Total, vous êtes là, vous nous avez pris nos places, dans les écoles, en vous donnant des priorités, dans le fonctionnariat, il faut donner des places aux pieds noirs. Donc, ils s'étaient installés, dans les premières années, après 62, ils s'étaient installés un climat, pas anti-pieds noirs, mais quand même. On était des envahisseurs. Alors que le souci des pieds noirs, ça a été de s'intégrer très rapidement. Ça a été de se faire oublier, de s'intégrer dans la masse. Moi, je n'ai pas connu un seul jour sans boulot. Je quittais une usine, j'allais à la pharmacie. Je quittais la pharmacie, j'ai travaillé quelques mois à l'hôpital, etc. Qui a arrangé les choses psychologiquement pour moi de ce départ de l'Algérie, de cette Algérie française perdue, c'est le fait que je me sois marié. Disons que ma vie de père de famille m'a fait donner des priorités ailleurs. Mais il y a toujours collé au fond de ma tête ce fait que nous avons dû quand même quitter un pays que nous aimions tellement. Encore aujourd'hui, 79 ans, j'ai encore l'Algérie dans ma tête. Je ne peux pas me détacher de cette Algérie. Et plein de souvenirs me viennent, plutôt des bons, hein, à 90%. Les plus mauvais étant le fait que ce fameux 5 juillet, j'ai un cousin de l'âge de mon frère aîné qui a disparu et que nous n'avons jamais retrouvé. l'oncle Jacqueline aussi, qui, lorsqu'il était en train de déménager à Périgueux, qui a été tué par balle, par mitraillette, alors que lui n'y était pour rien dans la guerre. Il y a eu des départs très douloureux. Des départs, comment vous dire ? Quand on fait la comparaison aujourd'hui, comment sont reçus tous nos réfugiés, tous nos exilés, que l'on doit recevoir, certes, le problème n'est pas là. Et comment nous avons été reçus en généralité, j'ai un peu de colère. J'ai un peu de colère parce que je me dis, on n'a pas eu droit à tant de sollicitude, à tant de bienveillance que nous sommes rentrés d'Algérie. Et ça, je le dirai devant n'importe qui. Ça a été un tsunami psychologique et ce tsunami, il y a encore des traces dans mon esprit. Mes trois enfants ont fait des écoles supérieures quand même. Ils sont fiers de ce que moi je leur apporte, de ce qu'on m'a donné à moi et de ce que moi je leur ai donné. Et quand ils ont l'occasion de dire « Mais mes parents sont pieds noirs. Je suis enfant de pieds noirs. » C'est nous, les derniers pieds noirs. C'est ma génération. La génération de ceux qui sont nés en 43, après moi, ce sont les enfants. Les enfants sont restés pieds noirs, mais ils n'ont pas connu ce que nous avons connu. Je ne sais pas ce qui s'effacera, et je suis content que des gens comme vous, des gens comme mon fils, des gens comme beaucoup d'associations fassent tout ce qu'il faut pour qu'il reste au moins écrit quelque part notre histoire. Parce que ça va... déjà, je vois de mes enfants, de mes petits-enfants, ça va... Oui, on va dire que les papas ont été pieds noirs. Mais il y a des choses qui vont peu à peu s'homéopathiser. Ça va devenir des traces. Moi, je veux qu'on garde cet esprit d'Espagnol, déjà. Nous avons été des travailleurs de main. Que nous avons été un peuple bienveillant, profondément enraciné dans le catholicisme espagnol. Que nous avons été fortement marqués par cet esprit de solidarité, de familiarité, de cet esprit du sang, cette racine qu'on ne perdra pas. Et j'ai eu la chance et le bonheur d'entendre de la part de mes petits-enfants, il y a quelques années en arrière, « Bon papy, on va arrêter de parler d'autre chose. Maintenant, tu vas nous parler de ton histoire. On t'écoute. » Et tous les quatre, mes quatre petits, ils étaient là comme si on allait leur offrir quelque chose. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait les gâteaux pieds noirs, les petits gâteaux secs au vin blanc, les monas, les fameuses monas. Et tous les ans, je me force à en faire une ou deux. Je veux marquer mon truc de pieds noirs avec ce truc de la mona et que je garde pour mes enfants, ou quand ils sont là, ils sont tout heureux. Mais chaque fois qu'arrive Pâques, « Papa, tu vas faire des monas ?» C'est comme si j'ouvrais un livre de vie des pieds noirs, cette mona. Elle me rappelle l'odeur de fleurs d'oranger, de l'anis. Tout ça, ce sont des odeurs qui font que je fais un voyage en Algérie à mes racines. Et ça, mes enfants, ils aiment bien. Que de temps en temps, on ressorte ce livre d'histoire.
Un grand merci à Michel pour son témoignage. Cet épisode a été monté et mixé par Jean-Christophe Treille et la musique est de Pascal Simoni. Et si vous aussi vous voulez témoigner et que je vienne à votre rencontre, vous pouvez m'écrire à quisesouviendra@gmail.com. Ce podcast est dédié à mes parents ainsi qu'à tous les déracinés.